Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte toujours les rouages de l'économie mondiale, aujourd'hui dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Bonjour Julien Clémenceau.
Bonjour Jean-Pierre.
Julien Clémenceau, vous êtes le responsable des pages économiques à Jeune Afrique. Et bonjour à notre premier grand invité de la saison, Thierry Perrault.
Bonjour Jean-Pierre Maurice.
Thierry Perrault, vous êtes économiste et sinologue. Vous avez étudié la langue chinoise tant à Paris qu'à Pékin. Vous êtes membre du laboratoire Chine-Corée-Japon de l'École des hautes études en sciences sociales, où vous animez deux séminaires, l'un qui s'intitule Présence chinoise en Afrique et l'autre Nouvelle territorialité entre l'Asie et l'Afrique. Toujours à l'École des hautes études en sciences sociales, vous êtes membre associé de la Fondation franco-japonaise et vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. L'une de vos dernières publications s'intitule Lin Yifu, l'Afrique et le modèle chinois d'émergence. C'est un long article publié dans la revue de la régulation. Le lien de cet article sera évidemment sur la page de l'émission sur le site www.rfi.fr. Au cours de cette émission, vous l'aurez compris, nous allons donc parler des relations économiques entre la Chine et l'Afrique, mais aussi du rôle que jouent les autres pays asiatiques comme le Japon, et c'est inévitable dans cette période très agitée de la vie économique et politique internationale, des secousses auxquelles doit faire face l'économie chinoise. Mais tout d'abord, avant d'aborder cette vaste problématique des relations entre l'Afrique et la Chine, quelques questions sur votre parcours personnel, Thierry Perrault, posées par Julien Clémenceau.
Thierry Perrault, quand on s'intéresse à la Chine, cet immense pays, on imagine que c'est passionnant, que ça suppose une somme de connaissances importante. Comment en vient-on à croiser cela avec l'Afrique ?
C'est vraiment une très très longue histoire, parce que d'abord c'était la rencontre avec la Chine. Je dois dire
la
que ma rencontre avec la Chine, bien entendu, je faisais des études de sciences économiques qui n'étaient pas, à mon avis, très passionnantes jusqu'au jour...
Où ça ?
À Assas, à Paris. Jusqu'au jour où j'ai lu un ouvrage par deux sinologues français, Henri Maspero et Étienne Ballas, et qui m'ont donné de l'économie une vision totalement différente, en ce sens que ça apparaissait comme un fait social. Et donc, à partir de là, à la fois j'ai retrouvé quelque chose d'intéressant dans l'économie, mais surtout, ça m'a ouvert la porte sur la Chine, et je me suis mis à commencer à parler aux Chinois.
Qu'est-ce que vous appelez économie fait social ?
C'est-à-dire qu'en fait, l'économie ne s'interprète que par rapport au contexte dans lequel les faits économiques ou les événements économiques ont eu lieu. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui s'interprète par des théories. Et donc, je remettais les pieds sur terre, et en même temps dans quelque chose qui était éminemment vivant, que je ressentais comme beaucoup plus vivant, et à travers un pays qui immédiatement m'a séduit. Ce qui fait que je me suis mis au chinois, que j'ai été désigné comme un des premiers étudiants boursiers à aller à Pékin après la révolution culturelle.
C'était donc dans les années
73. Et donc, à partir de là, je suis rentré en France ensuite, où je suis rentré à l'École des hautes études, comme chargé de travaux. Je suis rentré l'année suivante au CNRS, où je suis toujours de fait, comme chercheur émérite. Et alors, pour la rencontre avec l'Afrique, c'est une rencontre qui est très tardive. Et c'est une rencontre qui résulte de la publication d'un petit bouquin, dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie, sur l'économie chinoise, qui était à destination précisément, dirons-nous, des pays africains, puisque c'était des publications qui étaient vendues 2 euros pièce. Et ça m'a attiré un certain nombre d'étudiants africains qui voulaient travailler sur les relations entre la Chine et l'Afrique, après précisément avoir vu que j'avais quelque chose à dire sur l'économie chinoise. Et ça m'a embarqué dans un processus qui est une conversion vers la réflexion sur les relations sino-africaines, car je me suis aperçu que j'avais accès à des informations auxquelles la majorité des gens n'avaient pas accès. Et donc, mon rôle a été au départ de jouer un rôle de passeur. C'est-à-dire que j'accédais à des informations, entre autres des informations statistiques qui n'étaient publiées nulle part ailleurs, et que je redistribuais à ces étudiants pour leur thèse. Et par la suite, également, ça a été à travers tous ceux qui pouvaient lire le site que j'ai pu constituer.
Quel est ce site ?
Le site qui s'appelle perrault.fr/CINAF, hein, Chine-Afrique.
Qu'on trouvera sur le site également de RFI et de Jeune Afrique. Julien Clémenceau.
Lorsque vous êtes intéressé à la Chine, est-ce qu'il y avait aussi un intérêt politique ? Vous êtes de la génération qui a fait mai 68. Est-ce que vous étiez maoïste ?
Alors absolument pas. Je voulais le livre qui m'a ouvert à la Chine, c'est le livre de deux sinologues, Henri Maspero et Étienne Balache. C'est la sinologie la plus classique. Hein, qui puissent exister. Hein, ce sont des gens qui s'intéressaient à l'Empire chinois, et à l'Empire chinois, pas l'Empire vieillissant du 19e siècle, mais plutôt à l'Empire, dirons-nous, vivant, éblouissant, par exemple de la dynastie Song, etc. Hein. Donc, c'était vraiment la Chine ancienne. Et j'étais confronté au maoïsme, une fois que je suis arrivé à Pékin.
Et puis ça, c'était pas vraiment la faculté d'où émergeaient la plupart des dirigeants de maoïstes ou des militants maoïstes.
Vous aviez
plutôt l'extrême droite.
Non, mais il y avait les deux, de toute façon, qui s'affrontaient. Hein. Donc, mais je n'étais pas du tout dans cette perspective-là. C'était vraiment quelque chose, certains pourraient parler d'intellectualisme forcené, hein, j'étais pas du tout dans un acte politique.
Alors on va en venir maintenant aux questions de fond, Thierry Perrault avec Julien Clémenceau, une question sur le Japon.
Le Japon vient de tenir à la fin du mois d'août le TICAD 7, le forum de coopération avec l'Afrique. De nombreux chefs d'État africains avaient fait le déplacement. Il y avait le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le Congolais Félix Tshisekedi, les Ouest-Africains Ibrahim Boubacar Keïta, Alpha Condé, Macky Sall, Mahamadou Issoufou. Et depuis 10 ans, on voit que Tokyo accorde de plus en plus d'importance au continent africain. Est-ce qu'il faut y voir directement une réponse à l'intérêt de la Chine pour l'Afrique ?
Alors, je ne prendrai pas les choses de cette façon-là. D'une part parce que le Japon s'est toujours intéressé à l'Afrique d'une façon économique, et ceci depuis beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas parce que le Japon ne met pas en scène toutes ces interventions que le Japon n'était pas présent.
C'est-à-dire, ça remonte à quand ?
Ça remonte, je redirais, aux années 60. Hein. Et entre autres, ça remonte, les interventions, ce n'est pas dans tous les pays, c'est certain, mais c'est dans certains pays, par exemple le Maroc, vous avez eu une participation japonaise active, entre autres à la construction, dirons-nous, de l'économie du Sahara occidental, la construction des ports, etc. Donc le Japon a toujours été présent, hein, mais c'est une présence qui était beaucoup moins visible que la présence japonaise, comme je disais, qui était toujours mise en scène. Alors ceci dit, le TICAD, cette fois, est particulièrement intéressant. Il est particulièrement intéressant d'abord à cause du ton, qui est très agressif à l'égard de la Chine. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que précisément, dans la mesure où jusqu'à présent, c'était les choses qui étaient faites avec certaines, dirons-nous,
modération.
Pas douce modération, là, tout d'un coup, et avec des accusations qui sont aussi tout à fait intéressantes, c'est déclarer, nous, les Japonais, nous faisons dans la qualité, et nous, les Japonais, nous voulons faire des investissements responsables. Donc, c'est-à-dire que ils ont repris des accusations qui sont adressées à la Chine, qui, en fait, doivent être discutées en tant que telles. Alors, ce qu'il faut bien se voir, c'est parce que les deux choses sont liées, à la fois la qualité et la responsabilité en matière d'investissement en prestation de services. Les décideurs finaux en Afrique, ce ne sont pas les Chinois, ce sont les gouvernements africains,
ni
les Japonais a fortiori, mais ce sont bien les gouvernements africains. Et il faut voir que les gouvernements africains ont un choix qui est très dur à faire. Est-ce que l'on fait beaucoup à bon marché et de faible qualité immédiatement, ou bien alors est-ce que l'on fait moins maintenant, mais avec une durabilité plus long terme des investissements que nous réalisons. Donc c'est effectivement au gouvernement africain, hein, de décider de la qualité des produits, parce que les Chinois, si vous leur demandez de faire une route de mauvaise qualité, ils peuvent, une route de bonne qualité, ils peuvent aussi. Tout dépend de la façon dont ils sont rémunérés ensuite.
Est-ce que néanmoins, les Chinois sont pas sensibles à aux critiques qu'on leur a adressées?
C'est ce que je l'ai justement, la question que j'allais aborder, c'est que dans ce processus, les Chinois ont aussi une certaine part de responsabilité, en ce sens qu'ils ne se sont pas du tout rendus compte dans la façon dont réagissaient les pays africains. Alors aujourd'hui, vous avez une nouvelle forme de dialogue indirectement qui s'instaure, à savoir d'une part qu'un certain nombre de pays africains ont réalisé qu'il ne s'agissait pas, il ne suffisait pas de dépenser de l'argent pour pouvoir se développer, encore fallait-il que l'argent qui soit dépensé d'une façon intégrée à un plan, une stratégie de développement qui puisse garantir la génération de revenus qui permettent le remboursement justement des emprunts. Et en même temps, dans la mesure où les Chinois rencontrent, eux, des difficultés à obtenir le remboursement de ces emprunts, ils sont bien obligés de prendre en compte la rentabilité de ces investissements. Et donc, effectivement, vous avez aujourd'hui deux évolutions parallèles, c'est-à-dire qu'à la fois les Africains et à la fois les Chinois sont confrontés à la réalité sur le terrain.
Mais pour revenir aux Japonais, est-ce que vous dites ici que les investissements japonais, les travaux japonais qui sont effectués en Afrique sont de meilleure qualité que ce que font les Chinois?
Alors, je n'ai pas dit ça. Puisque j'ai bien pris le soin de dire que si on demande aux Chinois de faire des choses de mauvaise qualité, ce seront des choses bon marché de mauvaise qualité. Si on leur demande de faire des choses de bonne qualité, ils sont capables de faire des choses de bonne qualité à condition d'être payés pour. Donc si vous voulez, je ne suis pas en train de dire que les Chinois font des choses de mauvaise qualité et que les Japonais feraient systématiquement des choses de bonne qualité. Je dis simplement que les Japonais ont repris une accusation qui est lancée à l'égard des Chinois, dirons-nous pour motiver ou pour se présenter sur la scène internationale, et j'ai essayé de modérer cette opinion plus là en montrant qu'il y avait une part de responsabilité qui était celle des pays africains eux-mêmes.
Alors la création de valeur, c'est aussi une question qui intéresse l'économiste sénégalais Nongo Sambasila. Est-ce que les investissements chinois sont déterminants ou pas pour les économies africaines? Écoutez ce qu'il en dit au micro d'Olivier Roger.
Au départ, on avait les sommets France-Afrique, après il y a eu Chine-Afrique, Inde-Afrique et maintenant Japon-Afrique. Et donc on a l'impression qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes promesses et qui ne déboussent pas forcément sur les choses concrètes, tangibles pour la grande majorité des pays africains. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, chaque puissance ou chaque pays aspirant à la puissance vient avec ses propres conditions, vient avec son propre agenda. Est-ce que cela permet d'amorcer des ruptures qui bénéficieront aux pays africains? On peut se poser la question. Moi, en tout cas, je suis pas très convaincu par ce type de formule-là. C'est sûr que l'investissement étranger peut jouer un rôle moteur, déjà, pour amorcer une certaine transformation économique structurelle. Mais si on regarde, par exemple, le nombre d'emplois créés, disons, en Afrique, par l'investissement étranger, disons, sur les 20 dernières années, au maximum par an, c'est 150 000. Et alors, il y a chaque année 17 millions d'Africains qui entrent au minimum sur le marché du travail. Donc, ça montre que le véritable développement passe par la mobilisation des ressources internes, des ressources domestiques.
Alors, c'était Nongo Sambasila au micro d'Olivier Roger. Quelle est l'importance aujourd'hui de la présence économique chinoise en Afrique?
Alors, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Et j'ajoute, en répétant ce que je viens de dire, c'est que tant que les pays africains ne prendront pas en main effectivement leur destin, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas un plan de développement ou des stratégies pour chacun des pays, et que tant qu'ils n'instrumentaliseront pas les investissements étrangers, on sera toujours dans la même situation. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite.
Donc la responsabilité d'abord, c'est celle des gouvernements africains.
C'est bien évident.
Et on a l'impression, dans ce que vous dites, que les gouvernements africains donnent systématiquement la priorité au bon marché, à la mauvaise qualité, donc à la quantité.
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils sont face à des choix budgétaires, et dans les choix budgétaires, ils doivent se positionner par rapport à un certain nombre d'exigences, et ces exigences entraînent effectivement des arbitrages qui se font plus souvent en faveur du court terme qu'en faveur du long terme. Et il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, précisément à cause de tous ces problèmes de remboursement, qu'on soit dans une phase où on réfléchisse aux stratégies de développement, et ces stratégies de développement seront sans doute des stratégies de développement qui prendront beaucoup plus en compte le long terme, et en prenant en compte le long terme, on prendra peut-être davantage ou différemment en compte la question du financement et la question de la qualité.
Donc le message que vous adressez aux gouvernements africains, c'est réfléchissez, faites du long terme, et ne cédez pas à la facilité, c'est ça ?
C'est exactement ce que disait l'ancien directeur de la Banque centrale du Nigeria, quand il disait aux dirigeants africains, la romance est terminée, maintenant il faut réfléchir.
Quelle est aujourd'hui l'importance de la présence économique chinoise ? En quoi elle participe au développement ?
Alors, ce n'est pas la présence, ce sont les présences. Et le problème, c'est qu'en amalgamant des formes de présence différentes, on arrive à gonfler effectivement l'activité ou la forme ou les manifestations de ces présences chinoises. Vous avez deux chiffres qui sont énoncés pour décrire le nombre d'entreprises en Chine, un chiffre qui est d'environ 3000 à 3500
d'entreprises chinoises
en Afrique, qui est le chiffre officiel chinois, et puis vous avez le chiffre qui a circulé il y a 2-3 ans qui était de 10 000. Or, vous avez ici affaire à des réalités qui sont strictement différentes. Le gouvernement chinois recense les entreprises chinoises qui ont sollicité l'autorisation d'aller investir en Afrique. Donc c'est une approche qui est, dirons-nous, directement économique. Dans l'autre cas, c'est une approche qui est sociologique, c'est-à-dire qu'on a recensé toutes les entreprises à la tête desquelles vous avez une personne qui est un ressortissant chinois. Or, ce n'est pas parce que vous êtes un ressortissant chinois que votre entreprise est chinoise. Et encore moins que c'est une entreprise financée avec des fonds chinois. Donc, effectivement, selon la façon dont on se place, on va avoir des approches qui seront totalement différentes.
Alors, justement, Thierry Perrault, sur quelles sources vous appuyez-vous pour obtenir ces informations ? Parce qu'on sait que les statistiques africaines pêchent souvent par manque de fiabilité, et côté chinois, il y a un manque de transparence. Alors, ça fait deux handicaps majeurs, quand même.
Oui, mais alors, en ce qui concerne l'investissement direct à l'étranger, l'opacité dans les informations est partout. Et à la limite, j'aurais tendance à dire que parce que la Chine est un pays centralisé qui exige des déclarations, qui donne des autorisations à investir à l'étranger, on est presque plus sûr des fiches, des faits qui sont décrits dans les statistiques chinoises pour ce point particulier que des statistiques qui peuvent exister en Occident. Regardez les statistiques d'Eurostat. La difficulté qu'ils ont pour pouvoir ventiler à partir d'un pays la destination des investissements directs étrangers.
Eurostat, c'est les statistiques européennes.
Vous avez la même chose pour la CNUSED qui dépend
des
Nations Unies. Les statistiques d'investissement à l'étranger, dès lors que l'on veut voir la destination, c'est quelque chose qui est excessivement difficile. Bon. Donc, si vous voulez, de ce côté-là, on est toujours amené à travailler, non pas en chiffres bruts, mais en termes de tendances. Et les tendances montrent quelle peut être l'activité des uns par rapport à l'activité des autres, même si par ailleurs, dans certains cas, vous pouvez avoir aussi des détournements à travers les paradis fiscaux. Mais malgré tout, vous avez des tendances qui se dessinent, et ces tendances ne montrent pas que la Chine soit un pays qui investisse énormément en Afrique, mais pas plus ni moins que les autres. Tous les pays dans le monde investissent très peu en Afrique.
Très peu,
tous les
même
pays.
Même la Chine, mais alors ce que vous dites est surprenant.
Mais non, c'est pas surprenant, vous avez un continent, ce qui représente 3% du PIB mondial.
L'Afrique.
Vous avez un continent, toujours l'Afrique, qui représente 3% du commerce mondial. Pourquoi voudriez-vous que ce continent constitue un ensemble d'une importance si considérable que tous les pays s'y précipitent forcément ? En fait, les statistiques, aujourd'hui, la Chine a une telle importance économique pour l'Afrique, c'est précisément parce que tout le monde investit peu. Et que elle apporte, dirons-nous, que c'est un calcul, je dirais, en termes de rentabilité marginale. Le fait que vous ayez un euro en plus, c'est un poids énorme. Et on est dans ces dimensions-là. La Chine n'investit pas 3% de ses investissements à l'étranger en Afrique. Pas 3%.
Thierry Perrot, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique et nous parlons avec vous des relations, comme les auditeurs l'auront compris, entre la Chine et le continent africain. Julien Clémenceau.
Nous sommes dans une période de tensions économiques internationales, de menaces de récession. On se dit que les relations entre la Chine et l'Afrique en subiront peut-être les conséquences. Les échanges seront peut-être moins importants. Est-ce que c'est une bonne période pour éprouver la solidité des liens entre Pékin et les capitales africaines ?
Je ne sais pas. Je ne crois pas plus exactement que les liens entre les capitales africaines et Pékin soient d'abord des liens que l'on doit prendre d'un point de vue économique. Je pense que l'économie ou les liens économiques qui se créent entre la Chine et les pays africains sont des liens qui vont forger des liens politiques et que la véritable finalité sont ces liens politiques. L'Afrique, c'est 54 pays dont 53 sont reconnus par la Chine. C'est-à-dire que dans une assemblée comme l'Assemblée générale de l'ONU, ça fait presque un tiers, ça fait moins d'un tiers. Mais enfin, disons que ça correspond à un poids considérable. Or, ce que l'on voit, c'est que non seulement cette stratégie que l'on voit à l'œuvre en Afrique, c'est-à-dire on prête de l'argent pour financer des travaux et pour développer, dirons-nous, des liens politiques, donc en fait une forme de clientélisme politique, c'est ce qui est en train de se produire également dans la partie euro-asiatique qui est traversée par la route terrestre de la soie, où nous avons le même processus qui est en œuvre, à savoir on prête de l'argent pour des investissements en infrastructures faits par des entreprises chinoises et en même temps donc des liens politiques qui se créent. Donc ce que l'on voit, c'est création d'un ensemble de pays particulièrement défavorisés, d'un espèce de consortium de gens, de pays qui sont susceptibles de pouvoir soutenir la Chine. C'est pour ça que je pense que toute cette action est une action d'abord politique.
Et ça, c'est pas nouveau, puisque ça remonte au début des années 70, à 71, peut-être avec l'entrée de la Chine aux Nations Unies.
Non, parce qu'à cette époque-là, n'oubliez pas que certains pays africains qui reconnaissaient la Chine n'ont pas, dirons-nous, voté l'entrée de la Chine les yeux fermés, qui ont même, à un moment donné, où on leur a demandé, ils ont accepté que le vote de l'entrée de la Chine soit à la majorité des deux tiers. Bon. Donc, si vous voulez, il y a des voix qui ont manqué à un moment donné à la Chine. C'est au moment où la Chine était certaine de rentrer à l'ONU que vous avez eu la vague des pays africains, ceux qui la reconnaissaient et ceux qui la reconnaissaient pas. Donc, ce n'est pas une histoire aussi simple. Mais disons que la véritable implication, dirons-nous, de la Chine en Afrique, c'est à partir de 1996, ce voyage qui a été fait par le secrétaire général du parti de l'époque, qui, à son retour, a pensé qu'il fallait œuvrer avec l'Afrique. Donc, à partir de 1996, progressivement, a mis en œuvre une politique qui, indirectement, est exprimée aujourd'hui à travers la stratégie des nouvelles routes de la soie.
Mais vous disiez tout à l'heure donc qu'il fallait pas exagérer, considérer que l'investissement chinois en Afrique était démesuré, qu'il était de semblable importance que les investissements des autres puissances mondiales. En ce moment, il y a un affrontement entre la Chine et les États-Unis, il y a un ralentissement ou un atterrissage en douceur, comme on veut, de l'économie chinoise. Est-ce que ces deux phénomènes, le ralentissement et l'affrontement commercial, vont avoir un impact sur la présence chinoise en Afrique ? Est-ce que ça en a déjà un ? Est-ce que les Chinois vont s'intéresser un peu plus qu'ils ne le font à l'Afrique ou un peu moins ? Quel est votre sentiment ?
Alors, déjà, il faut éviter de voir ça comme étant que l'origine serait un ralentissement de l'économie chinoise. Le ralentissement de l'économie chinoise, c'est déjà un résultat. C'est le résultat d'un ralentissement de l'économie occidentale, puisque vous avez une espèce, pour simplifier les choses, de division du travail. On consomme en Occident, on fabrique en Chine, on s'approvisionne en Afrique. Donc, dans ce processus...
On s'approvisionne en matière première.
C'est ça, oui. Donc, dans ce processus, la Chine subit aussi les conséquences de ce ralentissement. D'où le fait que vous ayez précisément au TICAD cette agressivité commerciale, c'est que même un continent comme l'Afrique, qui a peu à offrir, dans une situation de pénurie, on va chercher le peu. Donc, effectivement, vous avez un phénomène de...
Le TICAD, c'était la réunion
avec le Japon.
Thierry Perrault, excusez-moi de vous interrompre, mais je voudrais que vous précisiez, quand vous parlez de pénurie, de quelle pénurie parlez-vous? Là, vous venez de parler de pénurie.
Pénurie de marché. Aujourd'hui, il s'agit pour tous les pays d'agrandir ses débouchés, d'élargir ses débouchés, donc de trouver de nouveaux marchés. Et à ce moment-là, que le marché soit de grande taille ou de petite taille, a peu d'importance à partir du moment où dirons-nous que c'est quelque chose de supplémentaire qui vient s'ajouter à ce que l'on recherche.
Donc, vous estimez que les Occidentaux, le Japon, la Chine vont se battre encore plus âprement pour ces 3% de part de marché que représentent les
économies africaines. Éventuellement, mais dirons-nous, ils ne vont pas se battre uniquement en Afrique, mais ils vont se battre pour toutes les parts de marché. Donc c'est dans cette perspective-là, entre autres, que doit s'apprécier l'agressivité des Japonais que j'évoquais tout à l'heure.
Julien Clémenceau.
En 2013, la Chine a dévoilé, donc on en a parlé déjà, l'initiative Route et Ceinture, qui vise à renforcer et à créer des routes commerciales à travers le monde. Est-ce que c'est à l'aune de cette initiative qu'il faut maintenant interpréter les relations avec l'Afrique, de la Chine avec l'Afrique?
Alors, déjà ici, il faut réussir à mettre un peu de côté tout l'aspect propagande. La route terrestre de la soie, ce n'est pas une invention chinoise. La route maritime de la soie n'est pas non plus une invention chinoise. Vous avez eu d'abord, pour commencer, la route des céramiques, qui était la route que les marchands arabes et indiens empruntaient pour aller s'approvisionner en Chine du Sud, qui route des céramiques a été prolongée par l'ouverture du canal de Suez, qui a été donc la création, il y a déjà plus d'un siècle, de cette fameuse route maritime de la soie dont on parle aujourd'hui. Bien. Alors, sur cette route maritime de la soie, qu'est-ce qui passe aujourd'hui, indépendamment des tankers, vous avez aussi des navires porte-conteneurs. Ces navires porte-conteneurs, lorsque vous regardez le trafic, 78% du trafic de la Chine jusqu'à l'Europe passe par cette voie-là. Mais vous avez que 4% du trafic qui aille à destination de l'Afrique. Bon, vous avez 15% du trafic qui est à destination de l'Europe. Vous avez toute l'autre partie qui est à destination des pays asiatiques. Donc sur cette route de maritime de la soie, l'Afrique est en fait marginale, très marginalisée. Et a priori, la destination des marchandises, 90% des marchandises conteneurisées qui partent de la Chine à destination de l'Europe passent par la voie maritime aussi. Donc si vous voulez, vous avez ici tout un ensemble de choses où vous avez deux marges, une marge qui est l'Afrique, mais de la même façon que vous avez la marge de la route terrestre de la soie, où le transport par voie ferroviaire est quelque chose, c'est de l'ordre à peu près de 2 à 3% du volume conteneurisé. Bon. Donc vous avez deux marges, vous avez un marché essentiel, qu'est l'Europe, et l'Europe développée. De ce point de vue, quand vous regardez le trafic maritime qui aujourd'hui existe, effectivement, les bateaux qui viennent de Chine, qui sont d'ailleurs plus souvent des bateaux de CMA, CGM que des bateaux de Costco, pour ne pas parler des bateaux...
L'armateur chinois,
pour ne pas parler de China Merchants, qui est un autre armateur chinois. Lorsqu'ils arrivent au bout du port de Suez, enfin au port de Suez ou de la Méditerranée, d'Alexandria, Port Saïd, lorsqu'ils arrivent là, les marchandises ne sont pas déchargées à destination de l'Afrique, mais à destination du nord de la Méditerranée. Lorsque les mêmes bateaux arrivent à Tanger, ce n'est pas à destination de l'Afrique, c'est aussi à destination du nord de la Méditerranée. Donc si vous voulez, ce trafic, même si vous avez, on tangente l'Afrique à plusieurs moments, on la tangentera peut-être davantage dans quelques temps à Djibouti, la destination finale n'est pas systématiquement forcément l'Afrique.
Thierry Perrault, est-ce que cet intérêt de la Chine pour l'Afrique s'incarne dans des personnalités chinoises? Est-ce qu'il y a des dirigeants chinois, des économistes chinois qui s'intéressent aux cultures africaines, à l'art africain, à l'histoire africaine, ou est-ce que c'est purement froid, un calcul économique et, ou politique, comme vous l'avez souligné tout à l'heure?
Alors là, si vous voulez, on a toujours tout à l'heure parlé, encore une fois, du Japon, parce que là, je pense qu'on va avoir une très très bonne comparaison. Vous savez, aujourd'hui, à l'école des hautes études, vous avez des chercheurs japonais qui tiennent une séance sur le rôle de la normativité en islam. Ces chercheurs japonais ont été formés à l'école des hautes études. Vous avez donc des chercheurs japonais qui ont fait des études d'anthropologie pour effectivement comprendre hein, les modes de fonctionnement, les modes de vie des populations islamiques. Nous avons à la Fondation franco-japonaise une jeune personne remarquable qui a pris le wolof avant d'apprendre le français. Vous n'avez absolument pas la même approche de la part de la Chine. Les étudiants chinois que j'ai eus, ce sont des étudiants qui avaient fait des écoles de commerce pour aller ensuite en Afrique parce qu'ils parlaient français. Donc ce sont des approches qui sont totalement différentes et ce sont des approches qui sont beaucoup plus pragmatiques du côté chinois, hein, effectivement avec des objectifs commerciaux qui sont des objectifs prioritaires. Alors vous faisiez indirectement allusion à ce personnage Lin Yifu, qui est un personnage que j'ai eu l'occasion de recevoir à l'école des hautes études lorsqu'il était...
Oui, que je citais que vous citiez tout à l'heure. Au début de l'émission.
Il avait été... convié par la Banque mondiale pour devenir l'économiste en chef, le vice-président senior de la Banque mondiale, et précisément parce que la Banque mondiale, cherchant des solutions pour l'Afrique, s'était dit ben ça serait pas mal si on pouvait reproduire en Afrique ce qui a été fait en Chine, qui sont les zones économiques spéciales. Et donc ils ont été chercher Lin Yifu, qui s'est transformé en missionnaire pour la Banque mondiale, mais surtout en VRP pour les entreprises chinoises en Afrique à cette occasion-là. Et l'un des premiers pays qu'il avait visité lorsqu'il a été nommé, c'était l'Éthiopie. Hein, l'Éthiopie dont on parle précisément parce que il y a des zones économiques spéciales, dont une zone économique spéciale chinoise, enfin même plusieurs zones économiques spéciales, et il a continué comme ça à travers l'Afrique. Et maintenant qu'il est à la retraite, cet économiste Lin Yifu, il a un think tank qui continue à conseiller les zones économiques, les pays africains, et c'est comme ça qu'il a remis il y a quelques années, il y a 3-4 ans, un rapport à Djibouti en faveur de la constitution de zones économiques spéciales. Le gros problème qui se pose, c'est que nous avons dans l'idée des formes de zones économiques spéciales qui sont les zones économiques spéciales qui ont été créées en Chine. Or, les zones économiques spéciales qui ont été créées en Chine, ce sont des zones créées par le gouvernement chinois qui invitait sur son territoire des entreprises étrangères qu'il sélectionnait et qu'il sélectionnait non en fonction à la fois de leurs compétences technologiques, mais aussi en fonction des secteurs d'activité économique. Ce à quoi on insiste en Afrique, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des enclaves chinoises, décidées par le gouvernement chinois avec l'accord des pays hauts, bien entendu, hein, pour faire venir des entreprises chinoises de main-d'œuvre.
Donc vous diriez qu'une nouvelle fois, il y a une grande responsabilité des gouvernements africains à veiller à ce que ça corresponde vraiment à leurs besoins, et par ailleurs qu'il y a pas, on duplique pas vraiment le modèle chinois et que ce sera pas nécessairement adapté et une bonne chose pour les économies africaines.
Alors je n'ai pas dit que c'était mauvais, parce que dans la mesure où vous créez des emplois, c'est toujours positif. Là, ce que je dis, c'est que attention, le résultat que vous pouvez en attendre n'est pas celui auquel vous pensez. Ne serait-ce que parce que les conditions dans lesquelles s'étaient créées ces zones économiques spéciales, les conditions dans lesquelles la Chine a su se développer dans les années 90, hein, 80-90, les conditions n'ont strictement rien à voir avec le monde tel qu'aujourd'hui il s'organise.
Thierry Perrault, une question de Julien Clémenceau.
Est-ce que malgré tout, les pays africains peuvent s'inspirer du modèle chinois ?
Non, pas en tant que tel.
Moment de réflexion.
Non, mais parce que si vous voulez dire non comme ça brutalement, ça va à l'encontre d'une conviction que je peux avoir qui est qu'il faut toujours regarder ce qui se fait ailleurs. Mais en fait, vous n'avez pas de solution clé en main. La solution clé en main, c'est vous qui l'inventez. Et donc, vous n'avez pas une solution pour l'Afrique. Il y a 54 solutions pour chacun des pays. Et il est évident que l'ouverture des frontières d'un point de vue économique peut encore bouleverser l'approche que vous pouvez avoir. Parce que pour certains pays, au lieu d'avoir à chercher à l'extérieur de ces frontières en Occident les produits, ils pourront peut-être chercher ces produits.
Vous faites référence à la zone économique
oui.
Continentale africaine.
Donc c'est certainement de ce point de vue un bon élément, un élément positif, favorable, mais disons que dont on peut absolument pas prévoir quelles seront les conséquences effectives. Mais disons que la solution, ce sont les Africains qui les ont, hein, et ce sont chacun à sa propre solution.
Vous allez souvent en Afrique ?
Et écoutez, de plus en plus, et de moins en moins en Chine.
Par exemple ?
Eh bien, si vous voulez connaître mon emploi du temps, le mois prochain, je vais à Djibouti. Le mois suivant, je vais au Cameroun. Le mois suivant, je vais au Bénin. Et je ne pourrai pas aller au Maroc parce que je ne peux pas prendre l'horaire d'arrivée d'un avion. Je se chevauche avec le départ de l'autre.
Et quand vous y êtes, vous êtes reçu dans les universités. Vous rencontrez qui ?
Alors, je rencontre essentiellement des universitaires.
Est-ce que les autorités vous consultent, est-ce qu'ils sont informés de votre
écoutez,
passage?
Écoutez, les autorités françaises ne m'ont jamais consulté lorsque j'avais quelque chose à dire sur l'économie chinoise. En France, je suis peut-être fait de telle sorte que les autorités, ont peut-être de diplomatie.
Par l'intermédiaire des RFI et de Jeune Afrique, apprendront-elles votre passage proche dans leur pays? Julien Clémenceau.
Les entreprises chinoises, on en parlait, selon les autorités chinoises, elles sont 3 000, 3 500. Vous disiez qu'on pouvait aller à 10 000 en fonction de ce qu'on prend en considération. Est-ce que parmi ces 3 000, 3 500 entreprises, elles répondent à leurs propres intérêts ou elles répondent au départ à une demande du comité central?
Alors, disons que si on prend le chiffre de 10 000, il est tout à fait évident que la réponse est non, elles ne répondent pas à des ordres venus de Pékin. Si vous prenez les 3 700, c'est beaucoup plus varié. En ce sens que vous avez, et surtout si vous vous placez dans le temps. Il est tout à fait certain qu'à une époque, lorsque la Chine a commencé à laisser ses entreprises aller jusqu'en Afrique, elle répondait à une stratégie politique. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Vous avez pour ces entreprises, par exemple, je pense à cette entreprise qui construit des ports, la CHEC. Il est évident qu'elle est installée en Afrique et puis dès qu'elle peut participer à la construction d'un port, elle prend sa décision elle-même. Donc il n'y a pas à ce moment-là de pilotage systématique de Pékin. Il n'y a pas non plus, dirons-nous, un financement systématique obligé qui arrive derrière. Elles sont obligées de solliciter éventuellement des financements. Donc je pense très sincèrement que ces entreprises ont une grande autonomie. À ça, il faut ajouter les entreprises qui ne sont pas sous tutelle centrale. Il faut parler des entreprises qui sont sous tutelle locale. Leur allégeance ne va pas au gouvernement de Pékin, il va au gouvernement de leur province. Donc, or, le gouvernement de ces provinces, leur seul souhait, c'est qu'elles ramènent de l'argent pour financer le développement de ces provinces. Et il n'y a pas à ce moment-là d'état d'âme quant aux orientations stratégiques. Donc, et quant à la majorité des entreprises qui sont recensées dans un chiffre de 10 000, c'est-à-dire celles qui vont au-delà de 3 500, ce sont des petites entreprises, des micro-entrepreneurs, c'est-à-dire souvent des aventuriers qui ont tenté leur chance, qui ont pu réussir, comme cet entrepreneur qui est arrivé en Afrique, dit-il, avec 700 euros en poche et qui s'est enrichi dans l'industrie du t-shirt. Si vous voulez, son entreprise a eu la nationalité chinoise que depuis quelques années, parce qu'il a déclaré un siège social en Chine alors que c'est une entreprise qui était ghanéenne. Bon. Donc si vous voulez, vous avez ici toute une série de catégories d'entreprises et vous avez donc entre les entreprises des degrés de liberté qui n'ont strictement rien à voir et des degrés d'implication dans les économies locales.
Quelle est l'image de l'Afrique dans les milieux économiques chinois, chez ces petits entrepreneurs? Est-ce que effectivement, comme vous le disiez, c'est toujours l'aventure? Est-ce qu'on identifie bien les marchés?
Alors, vous avez eu organisé précisément par le think tank de l'INIFU dont on parlait tout à l'heure, une étude qui a concerné 600 entreprises qui implantées dans le sud de la Chine et à qui on posait la question de savoir si elles envisageraient de se délocaliser de manière générale et en particulier en Afrique pour faire face au problème d'élévation du coût de la main-d'œuvre. Et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait que deux entreprises qui acceptaient éventuellement d'envisager de partir en Afrique. Or, ces deux entreprises, c'était des entreprises chinoises à capitaux étrangers. Donc, si vous voulez, l'entrepreneur chinois, d'une manière générale, le petit entrepreneur pour ces entreprises-là, ne voit pas l'Afrique comme une destination. Et lorsque vous regardez les discours au niveau des responsables politiques, vous avez ceux qui ont des discours économiques. Et ceux qui ont des discours économiques ne montrent pas, ne présentent pas l'Afrique comme étant une destination envisageable pour les entreprises. Mais ceux qui ont des discours politiques, au contraire, pour eux, il importe d'être présent en Afrique parce que c'est le seul moyen de lutter contre l'Occident.
Alors Thierry Perrault, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous parlons donc des relations entre le continent africain et la Chine, entre les Afriques, les 54 pays africains et la Chine. Vous évoquez tout à l'heure ces entrepreneurs africains un peu aventuriers, et puis vous avez aussi évoqué donc le Ghana. Les Chinois ont aussi amené une certaine forme de criminalité en Afrique. Ils font de la contrebande, ils peuvent utiliser la violence. L'un des exemples, c'est le trafic de bois de rose à partir de l'Afrique de l'Ouest et en particulier du Ghana. Écoutez ce qu'en dit Suzanne Breitkopf de l'ONG Environmental Investigation Agency.
Le cas du Ghana, il ne s'agit pas d'un cas isolé, disons. Nous avons pu observer le même cas au Sénégal, Nigeria, Guinée-Bissau, etc. Je crois que c'est important de noter que le bois de rose, et selon les Nations Unies, même le secrétariat de la CITES a trouvé que le bois de rose est le produit issu des espèces sauvages le plus trafiqué du monde. Donc, en valeur, en volume, ce commerce illégal représente 35% de tous les trafics des espèces sauvages illégales du monde. Il s'agit donc d'un grand business qui incite les trafiquants, les négociants, surtout d'Asie, à extraire le plus que possible de la forêt. Le Ghana est devenu l'un des plus grands fournisseurs de bois de rose pour la Chine aujourd'hui. Et nous avons nos enquêteurs sous couvert ont rencontré de nombreux trafiquants ghanéens et chinois qui nous ont expliqué que c'était effectivement assez simple de contourner les interdictions, les contrôles ne marchent pas.
Alors c'était donc Suzanne Breitkopf de l'ONG Environmental Investigation Agency. Ça vous étonne ce que vous entendez là, Thierry?
Non, pas du tout. J'ai un étudiant malgache qui me disait que si les Chinois pouvaient trafiquer le bois de rose à Madagascar, c'était pas de la faute des Chinois, mais à faute du gouvernement malgache. Hein, et donc, si vous voulez, il se trouve que ce sont des Chinois, mais les trafiquants que vous pouvez avoir, ils sont pas forcément tous Chinois. Ils sont et donc, le problème, c'est beaucoup plus, encore une fois, la façon dont les pays africains eux-mêmes peuvent ou sont en mesure de gérer, de protéger leurs propres ressources. Alors, nous avons quand même une population mondiale qui est faite de plus d'un quart de Chinois qui ont pu acquérir une certaine liberté de déplacement. Il est assez normal qu'on puisse les retrouver s'agiter un petit peu partout. Et c'est pas étonnant non plus que parmi la population chinoise, il y en a qui préfèrent les voies,
non officielles
aux voies officielles. Hein, donc, il y a absolument rien d'étonnant à ça. On parlait du Ghana, mais vous avez aussi le problème de l'orpaillage au Ghana. Hein, pour l'instant, je ne crois pas que l'orpaillage en Guyane française soit le fait d'opérateurs chinois.
Mais ils sont brésiliens,
brésiliens. Donc, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait partagé et en fonction des circonstances.
Julien Clémenceau, une question à Thierry Perrault.
Je reviens sur le FOCAC qui a eu lieu, donc le sommet sino-africain qui a eu lieu l'an dernier à Pékin. On a annoncé comme à chaque fois des chiffres très importants. Là, c'était 60 milliards de fonds débloqués pour l'Afrique. Est-ce qu'une partie de cet argent a déjà été investi?
Alors, disons que là, j'ai oublié de donner des précisions au niveau du vocabulaire. Hein. C'est 60 milliards de lignes de crédit. Et si ces fonds étaient investis, ça ne sont pas les entreprises chinoises forcément qui les investiraient, mais ça peut être des prêts à des gouvernements africains qui les investiraient. Or là, effectivement, le problème avec le FOCAC, c'est que les chiffres qui sont annoncés, hein, on n'a aucun moyen de vérifier que ces lignes de crédit ont été effectivement utilisées. Ça a été déjà la même chose lors du FOCAC de Johannesburg quelques années auparavant, où le même chiffre de 60 milliards a été annoncé, mais on ne sait pas du tout dans quelle mesure cela a été employé. Ce que l'on sait en principe, c'est que ces sommes, ces lignes de crédit, sont faites pour aider prioritairement des entreprises chinoises à commercer, à financer leurs prestations de services, voire à investir dans les pays africains.
Et par exemple, quand des entreprises chinoises construisent une ligne de chemin de fer entre Nairobi et Mombasa, au Kenya,
c'est pas un investissement chinois.
C'est pas un investissement chinois.
Non, c'est une prestation de service chinoise financée par des fonds chinois, mais c'est un investissement africain, hein, qui sera payé par le gouvernement africain qui l'a commandité.
Et la ligne de crédit de 60 milliards qu'on évoque,
alors,
n'intervient pas là.
Ça fait partie de ces
mystère.
Sommes d'ombre. Hein, on ne sait pas dans quelle mesure, effectivement, ces sommes sont allouées pour des opérations de ce type.
Parmi les autres zones d'ombre qui entourent la présence chinoise, l'aide chinoise ou les investissements chinois, il y a la dette des pays africains, on en a déjà parlé. C'est au cours des 12 derniers mois, il y a certaines dettes africaines au Cameroun, au Congo qui ont été annulées. Est-ce que ça vous a étonné dans la mesure où la Chine avait dit qu'elle serait plus vigilante quant à l'utilisation des fonds, sans doute pour échapper aux critiques qui lui sont adressées quant au surendettement de certains pays.
Là, vous avez un décalage, en ce sens que la Chine a décidé d'être plus vigilante, mais c'est quelque chose qui se met progressivement en place, hein, qui ne remet pas en cause ce qui a déjà été fait. C'est pour l'avenir. Donc la Chine, effectivement, pour l'avenir, va essayer d'être beaucoup
plus vigilante. Mais est-ce qu'en annulant une partie des dettes...
C'est minime ce qui a été annulé. C'est minime. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le gros de la dette qui est annulée. Dirons-nous que plus souvent, si vous avez un réétalement de la dette, parce qu'il faut bien se rendre compte. On reprend l'exemple, par exemple, du chemin de fer à Addis Abeba, Djibouti. Hein, la rentabilité d'une ligne de chemin de fer de ce type, c'est facilement sur 50 ans. Bon. Or, quand vous avez un prêt de 10 ans, il est bien évident que la ligne de chemin de fer ne va pas, par elle-même, générer les revenus hein, qui vont permettre de rembourser ce prêt. Donc il faudrait que la ligne de chemin de fer fonctionne de telle façon que vous ayez des retombées dans toute l'économie éthiopienne, donc avec des possibilités d'impôts sur les revenus des entreprises qui vont permettre au gouvernement de rembourser. Bon. Donc si vous voulez, un prêt de 10 ans pour des travaux de ce type, c'est complètement aberrant. Donc ça c'est quelque chose finalement dont les pays africains et la Chine elle-même commencent à se rendre compte. Les uns parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas rembourser, qu'il faut qu'ils trouvent un moyen, et les autres qui se rendent compte que la rentabilité de leur prêt hein, va dépendre de la façon dont il est conçu.
Donc Djibouti, c'est un endroit sur lequel vous travaillez beaucoup.
Alors, c'est effectivement un endroit sur lequel
Pourquoi
je me suis. Alors, pour des questions de port, hein, le fait que vous avez actuellement la construction d'un port à Djibouti, avec la création d'une zone économique spéciale, et donc là, tout un ensemble d'éléments qui se voudraient. C'est du moins comme ça que le décrit l'entreprise China Merchants, comme une reproduction du modèle chinois sur la Corne de l'Afrique. Bien. C'est pour ça que je me suis intéressé à la chose. Je me suis aussi intéressé à la chose, c'est que, pour une autre raison, c'est qu'au même endroit, vous avez eu deux zones économiques spéciales qui ont été créées. Une qui est créée donc par la China Merchants, qui est la reprise en fait d'une ancienne zone économique spéciale déjà présente, et puis une autre créé par un fonds privé, cet entrepreneur dont je vous parlais tout à l'heure, Ghanéen, hein, qui a fait fortune dans les t-shirts et qui se lance dans la création d'une zone économique spéciale. Donc cet entrepreneur hein, donc veut créer un ensemble où vous aurez à la fois des centres de vacances, des universités, un aéroport, etc. Enfin, c'est un truc absolument monstrueux. Et apparemment, il a quand même énormément de problèmes pour le financer. Alors que China Merchants, eux, ils sont dans une autre stratégie, qui est une stratégie beaucoup plus intéressante du point de vue analytique, en ce sens qu'ils veulent créer un hub, et c'est un hub qui est non pas seulement un hub du point de vue portuaire, maritime, mais aussi un hub financier.
Alors, pour faire court et pour résumer, parce qu'on arrive au terme de cette émission, Thierry Perrault, c'était une synthèse de l'intervention économique chinoise en Afrique, ce qui se passe à Djibouti, très brièvement.
Non, pas une synthèse de ce qui se passe, mais de ce qui pourrait se passer.
Eh bien, c'est sur cette projection, sur cette ouverture sur l'avenir que se termine cette émission. Merci à vous, Thierry Perrault, d'avoir accepté l'invitation de Jeune Afrique et de RFI. Donc, cette émission, vous pouvez la podcaster sur vos téléphones portables via l'application de RFI Pure Radio ou sur le site internet de RFI, www.rfi.fr ou de Jeune Afrique, jeuneafrique.com. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. À bientôt.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.